Moving On présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
Mobility Stories, sur la route, édition spéciale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Mobility Stories, édition spéciale consacrée à la route. Nous sommes en direct des colloques de Cerisy en Normandie où se déroulent des rencontres nationales consacrées à la route et qui a pour thème « Comprendre la route entre imaginaire, sens et innovation ». Autour des micros de l'Express et de Moving On, ce relais des chercheurs, des scientifiques, des experts, des historiens à l'occasion de 4 épisodes originaux. Et dans ce deuxième volet, on va évoquer un sujet hautement sensible mais primordial pour le vivre ensemble. On va parler partage de la route. Et oui, aujourd'hui notre mobilité n'a jamais été aussi plurielle. Les modes de déplacement sont légion. Voiture, vélo, tricycle, trottinette, poids lourd, bus, monoroue, skateboard, tracteur, marche à pied et j'en passe. Tout cela s'accompagne évidemment de nombreuses difficultés de circulation, voire exacerbe les humeurs, on va dire, irascibles sur la route. Bref, il est capital de comprendre comment nous pouvons cohabiter de manière efficace et sécuritaire sur l'asphalte. Alors doit-on réaménager la route, la modifier, la repenser afin de pouvoir y circuler sans danger? Va-t-on réussir à partager la route et surtout comment? Je suis Antoine Perrin, bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories sur la route, une édition spéciale proposée par Moving On en partenariat avec l'Express. Le partage de la route avec mes invités, Yves Crozet, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à Sciences Po Lyon et au laboratoire aménagement économie et transport au CNRS, vous êtes aussi maire de Saint-Germain-la-Montagne dans la Loire. Emma-Sophie Mouret, bonjour à vous.
Bonjour Antoine.
Vous êtes docteur en histoire de l'aménagement du territoire. Et puis Jacques Lévy, bonjour, géographe, bonjour. Membre du rhizome de recherche Coros. Première question assez simple. Le partage de la route, c'est évidemment un sujet d'actualité, notamment parce que la ville de Paris a récemment supprimé les trottinettes en libre service. Il y a eu un sondage, les Parisiens n'en voulaient plus. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça aujourd'hui, en 2023, de partager la route, Jacques Lévy ?
Historiquement, la route a été un lieu de cohabitation entre toute espèce de mobilité, mais en même temps marqué par une très forte hiérarchie. C'était en gros ceux qui allaient vite qui l'emportaient sur ceux qui allaient lentement. Et ceux qui allaient vite étaient aussi ceux qui étaient les plus puissants, avec des résultats en termes de violence. Hein, la notion de violence routière me paraît assez justifiée. Hein. Encore aujourd'hui, le résultat de cette cohabitation brutale, c'est 1 350 000 morts par an dans le monde, c'est-à-dire beaucoup plus que les homicides. Et beaucoup plus que les guerres. Donc, on voit tout le passif qui est notre point de départ. Et donc, inventer de nouvelles manières de cohabiter qui seraient beaucoup plus démocratiques, plus égalitaires, c'est effectivement, je pense, le tableau de bord des enjeux, des défis qui est devant nous.
Le coupable, c'est la voiture pour vous ?
Je dirais qu'en ville, quand on prend les centres des grandes villes, c'est-à-dire là où il y a les plus fortes densités, là où le niveau d'urbanité, c'est-à-dire un mélange de densité et de diversité, est le plus élevé, on a en gros résolu les problèmes. C'est-à-dire que les vitesses nominales des véhicules ont baissé. En gros, plus personne sur la voirie ne va à plus de 30 à l'heure, en gros. Et par ailleurs, les piétons ont obtenu des droits qui sont parfois un peu grignotés par les vélos actuellement. Mais en gros, il y a eu ce qu'on appelle, un peu dans la langue de bois, l'apaisement, la pacification. Donc, c'est peut-être pas un modèle, mais une expérience qui pourrait, en changeant un peu les paramètres, être appliquée dans la route, sur la route interurbaine, où là, les vitesses sont en fait plus importantes et où le phénomène nouveau, c'est qu'il y a une grande partie de la population, celle qui a choisi de s'installer dans le périurbain, dont le mode de vie volontaire passe impérativement par la voiture. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se déplacer, c'est parce qu'ils souhaitent utiliser la voiture. Donc, du coup, dans leur système de la vie quotidienne, ils ont absolument besoin de faire beaucoup de kilomètres à une vitesse non négligeable, parce que sinon, ça compliquerait leur mode de vie. D'où le fait que quand on a voulu faire passer en France les vitesses maximales sur ce type de voie de 90 à 80, ça a provoqué une espèce de révolte sociale qui s'est terminée par les gilets jaunes. Hein. Donc, on voit bien que c'est un point sensible. Donc là, je dirais que la solution n'est quand même pas évidente. Il faut faire preuve d'imagination.
Yves Crozet, qu'est-ce qui rend compliqué finalement le partage de la route ? Est-ce que c'est un phénomène très nouveau, 2023 ? Est-ce que ça a toujours existé ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a une prédominance, comme je le disais, de moyens de transport différents, trottinettes, vélos, etc. On a l'impression que ça n'a jamais été aussi compliqué, notamment dans les villes, de partager la route.
Alors, ce qui rend les choses compliquées, c'est, comme l'a dit Jacques, sur la différence de vitesse. Et ce problème, il a été traité il y a maintenant 100 ans en Italie, sur le modèle des États-Unis, sorti par le haut en disant on crée des autoroutes. Et sur ces autoroutes, pas de deux roues. Pas de véhicule hypomobile, parce que là, ça fait crever les pneus des voitures avec les clous des fers à cheval. Et donc, la solution a été faite par le haut. Et ce qui s'est passé dans les villes depuis maintenant quelques années, à Paris, à Lyon, à Genève, c'est qu'on a une sortie par le bas, ce qui n'est pas péjoratif dans mon esprit. C'est de dire, voilà, ben, il va falloir baisser progressivement les vitesses des modes les plus gourmands. Et ce qui est difficile, ce n'est pas tellement de partager la route, c'est de faire comprendre à un automobiliste qui a dans les mains un outil qui peut rouler à 100, 110, 150 km/h, qu'il va falloir rouler à 30. Et c'est ça qui est difficile. Ce qui est très difficile dans le partage, c'est qu'on va parler de partage de la voirie, ce qui est le cas pour laisser la place aux vélos, aux piétons, aux autobus. Mais on va surtout obliger l'automobiliste à renoncer à la puissance de sa voiture.
Si on interdit la ville à la voiture, en tout cas si on oblige la voiture à aller beaucoup moins vite, est-ce que quelque part, on n'est pas un petit peu en train de pénaliser tous ceux qui habitent en dehors des grands centres urbains ?
Sauf si ils assument le fait qu'il y ait une intermodalité. Hein. Aujourd'hui, dans les grandes villes, on voit avec les plaques d'immatriculation, c'est beaucoup de gens qui viennent d'une autre ville, plus petite, où ils ont l'habitude de tout faire en voiture. Et il faudrait qu'ils acceptent de poser leur voiture au terminus et du RER, des transports publics. Et ça ne serait pas non plus catastrophique, hein,
c'est
bien fait.
Ça veut dire ça, partager la route ?
Oui, ça veut dire partager les modes de transport qui sont utilisables. Et donc, effectivement, en zone rurale, on va de A à B avec un seul mode de transport. Et bien, dans une zone dense, il faut comprendre qu'un certain mode de transport doit laisser la place à un autre et qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, nous, une rupture de charge et donc un coût. Et c'est bien pour ça que certains, Gilles Savary, parlent de villes inaccessibles. Et c'est aussi pour cela que vous avez une partie de la population qui se débrouille pour ne plus jamais aller en ville, parce qu'elle vit et elle travaille en dehors de la ville, et la ville est considérée comme un endroit inaccessible.
Emma-Sophie Mouret, est-ce que le partage de la route a toujours été un enjeu si crucial ?
Tout à fait, oui, même avant le développement des véhicules, des transports motorisés. Dès le 19e siècle, au moment où on construit des routes carrossables, donc les ancêtres des routes départementales et communales actuelles, c'est des routes qui, dès leur ouverture, ont été le théâtre de problématiques de partage assez violentes.
Entre quoi et quoi ?
Par exemple, un exemple que j'aime bien évoquer, donc dans le cas des routes de montagne, c'est des routes qui sont construites pour le transport du bois, donc pour la circulation des chartes qui transportent des grumes de bois. Et dès que ces routes ouvrent, la plupart ont des qualités esthétiques assez recherchées, et donc elles sont au cœur de l'activité touristique. Et en quelques années, cette activité touristique, donc le tourisme routier, prend le pas en termes d'usage des routes, et toute l'activité forestière en fait est mise de côté et voire pénalisée, puisque les transporteurs sont taxés et ne peuvent pas circuler les jours de forte affluence touristique. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on est sur une problématique de vitesse également, toute proportion gardée, mais les premiers touristes en véhicule hypomobile puis automobile,
donc à cheval,
sont là dans des logiques de contemplation et de déambulation. Les transporteurs forestiers, eux, avaient besoin d'aller vite. Donc là, c'est plus la lenteur qui va prendre le pas sur la rapidité à un certain moment.
Donc à l'époque, il y avait déjà des crispations autour de « moi, je suis en voiture et toi, tu es à cheval et tu me poses problème sur la route ».
Oui, des crispations entre les différents modes de transport également, par rapport aux piétons aussi, ou aux personnes qui traînaient des bois sur la route, qui n'avaient pas forcément de char ou autre.
Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui penser à réaménager la route, à la modifier pour accepter tous ces différents modes de transport ? Et est-ce que c'est possible ?
Eh ben oui, alors, plus que jamais, parce que si on se reporte aux années 1960, 70, 80, là aussi, on a fait une sortie par le haut. C'est-à-dire que quand on avait un problème sur une route, on en créait une nouvelle. On faisait un contournement, on faisait une autoroute, on élargissait, etc. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, financières, environnementales, climatiques, construire de nouvelles routes n'est plus vraiment à l'ordre du jour, sauf localement. Donc la rareté de l'espace vierge, de l'espace de voirie, va être de plus en plus ressentie, d'autant plus que le parc automobile continue à augmenter, plus de 40 millions de voitures, plus les véhicules légers, plus les poids lourds, et que d'autres véhicules, comme vous l'avez dit en introduction, apparaissent. Les vélos électriques, etc. Donc la concurrence pour le partage de la voirie va s'aiguiser, et comme pour l'instant la plupart des voiries, je ne pense pas aux villes ici, mais aux départements, sont des voiries qui sont essentiellement faites pour les camions et les voitures, c'est sur cette voirie-là qu'il va y avoir une pression très forte pour créer des parcs de covoiturage, peut-être des voies réservées au covoiturage, aux poids lourds, ou des voies spécifiques pour les vélos. Et donc, on le voit, plusieurs départements sont en train d'avancer dans ce sens-là. Et les conflits qu'on a eus en ville, dans certaines villes où on a réduit la voirie pour mettre les autocars, on va les retrouver demain dans les zones périurbaines ou certaines zones rurales.
Et Sophie Mouret.
Oui, mais toutes les routes, de toute façon, ne sont pas aménageables. Il y a certaines routes qui sont d'ailleurs classées en tant que grand site ou etc. d'un point de vue architectural, et on ne peut pas faire ce qu'on veut dessus. Et puis, il y a certains territoires qui ne désirent pas agrandir leurs routes, puisque ça peut être aussi un moyen de réguler le trafic dans la commune, un moyen de diriger des pratiques touristiques et pas se retrouver avec ce qui peut être qualifié de tourisme de masse. Donc je ne pense pas que l'aménagement soit une solution systématique.
Et quoi alors? Quelles seraient les solutions pour réussir enfin à partager la route? Est-ce qu'on peut en profondeur la modifier, notamment pour les mobilités douces? Je pense évidemment aux pistes cyclables. Hein. Je ne sais pas si la France est en retard, mais il y en a moins que dans certains autres pays européens. Ça, c'est une solution?
Oui, alors effectivement, le vélo assistance électrique se développe rapidement dans les jeunes générations, y compris maintenant dans des zones qui ne sont pas forcément extrêmement denses. Mais la difficulté, encore une fois, c'est bien de changer le comportement réflexe. Ce qui se passe aujourd'hui dans les villages qui ont mis en place des systèmes d'écluses, donc des systèmes où la voirie est divisée par deux et on ne peut pas se croiser. Mmh. On est obligé de s'arrêter, ce n'est pas un ralentisseur, mais on est obligé de s'arrêter pour laisser passer celui qui vient en face. Ça, petit à petit, ça change l'état d'esprit du conducteur. Parce que l'état d'esprit du conducteur, il sait aujourd'hui que quand il arrive dans un village, il aura ou un système d'écluse ou un ralentisseur. Donc, et ça, petit à petit, quand il arrive sur le ralentisseur, il sait qu'il est à 20 ou 30. Pour peu qu'il y ait un passage côté sur le ralentisseur, ça ne va pas lui poser un problème.
De s'arrêter si un piéton arrive.
Pour laisser passer le piéton.
C'est une question que je voulais poser à Emma-Sophie Mouret d'ailleurs, parce que le coût de la route, c'est important quand on parle de partage de la route. Mm-hmm. Je crois que c'est vous qui m'avez dit, ou qui dites que il faudrait payer à l'usage en fait.
Mais ça, pour le cas des routes vicinales et donc les anciennes départementales, c'était le cas. On payait à l'usage. Plus on détériorait la route, plus on devait s'acquitter de taxes industrielles, ça s'appelait. Elles étaient calculées en fonction, pour les transporteurs forestiers, du tonnage transporté et du nombre de kilomètres parcourus. Alors, ça avait aussi un effet négatif, dans le sens où les petits exploitants ne pouvaient pas s'acquitter de ces taxes-là. Et du coup, ça a vraiment restructuré l'économie forestière aussi. Donc, il faut repenser, en différer les effets de ces mesures, qui peuvent avoir des impacts sur des personnes plus modestes, des usagers plus modestes.
Mais s'il y avait une taxe à l'usage de la route, est-ce que ça, définitivement, ça ne permettrait pas de partager un peu mieux la route, puisqu'il y aurait moins de voitures, de fait?
Bon, c'est un peu le problème des taxes sur les poids lourds, en fait, puisque leur impact sur la détérioration des conditions de roulage, il est mesuré. On voit que c'est plus que proportionnel au poids. Donc, c'est pas une piste nouvelle. Mais effectivement, il y a toujours le problème de savoir comment on équilibre entre la solidarité générale de la société pour offrir un service universel et puis le coût spécifique des gens qui consomment plus. Est-ce qu'il doit y avoir des malus? C'est effectivement, avec l'émergence des voitures électriques, le problème va se poser, puisqu'on avait... On avait un levier qui était lié au fait qu'il y avait des voitures plus ou moins polluantes. Donc, c'était assez tentant de faire payer plus les plus polluants. Si, en supposant que ça s'équilibre, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que quand même, le poids de la voiture joue, mais en même temps, ils vont aussi consommer un peu plus. Ça va leur coûter un peu plus cher. Mais, donc, ça pourrait être aussi des taxes sur l'électricité. Hein. Mmh. Mais en tout cas, le problème se reposera de nouvelles manières pour savoir si l'encombrement joue un rôle. En fait, dans les espaces urbanisés, la question de la place de la voiture, c'est pas seulement la pollution. Hein. Dans les villes américaines, en gros, 90% de la superficie de la ville est occupée par la voirie, que ce soit les voies de roulement ou les parkings. Donc, ça tue la ville, en fait. Hein. Donc, Cerdà, l'urbaniste barcelonais, avait dit qu'une ville, c'est un équilibre entre ce qu'il appelait les voies et les entrevoies. Et donc, plus on prend des libertés avec cet équilibre, plus, en fait, on empêche la productivité propre de la concentration urbaine de jouer son rôle. Donc, le rôle de l'encombrement, hein, le fait que, par exemple, la surface d'une voiture, c'est beaucoup plus grand que la surface d'un piéton, ça pourrait être très bien une base de taxation.
Et on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment capital. Est-ce que les objectifs de décarbonation de la route, de transition énergétique, ça ne va pas évidemment rebattre les cartes dans le partage de la route?
C'est déjà le cas avec les zones à faible émission, puisque ces zones, elles vont exclure d'abord les véhicules diesel et puis à terme l'ensemble des véhicules thermiques. Donc, ce sont des outils qui sont typiquement faits pour que sur la route, un certain nombre de véhicules disparaissent, ou interdiction des poids lourds, obligation de faire des livraisons avec des véhicules électriques. Et donc, on voit bien que les choses, encore une fois, sont déjà engagées. Ce qui effectivement n'est pas engagé, c'est ce que j'appellerais le partage non pas de la route, mais du coût de la route. Mmh. Puisqu'on a fait les choses en sens contraire, puisque jusqu'en 2000, on avait en France une vignette automobile payée par les poids lourds, par les véhicules légers, qui rapportait 2,5 milliards d'euros par an. Ça serait à peu près 5 milliards aujourd'hui. 5 milliards, c'est à peu près ce que dépensent chaque année les départements pour les routes. Or, cette vignette, elle alimentait les départements. Et cette ressource a disparu. Il y a un projet européen d'eurovignette qui nous permettrait, dans quelques années, notamment à la fin des concessions autoroutières, de développer un système de tarification, non pas sur le million de kilomètres de routes françaises, mais sur les 25 000 kilomètres qui portent à peu près 50% du trafic, et qui permettrait de financer l'entretien de ces routes et peut-être leur réaménagement. Mais là, on rentre sur une question extrêmement délicate. Faut-il tarifer les routes comme on tarifie l'eau, le téléphone, l'électricité ou les déchets ménagers? Jusqu'à aujourd'hui, la route est considérée comme un bien commun qui doit être gratuit, exactement comme l'est l'éclairage public.
Et puis surtout, si je suis en vélo, est-ce que je devrais payer autant que celui qui est en camion? Je n'aurais pas envie, je trouverais ça injuste.
Non, bien sûr.
La question, ce serait de quantifier aussi cette usure et ce prix qu'on devrait payer, quoi. Donc ça paraît assez abyssal comme calcul. Mais là, je voudrais rebondir sur ce que disait Jacques tout à l'heure. La question de l'usure, elle est intéressante, surtout maintenant avec le développement de poids lourds, voire très lourds, et de combats exceptionnels, qui passent sur des ouvrages d'art, donc des ponts qui n'ont pas forcément été prévus pour supporter un tonnage aussi important, qui les usent. Mmh. Et on ne sait pas quantifier cette usure-là. Et l'entretien revient aux collectivités. Et là, on est dans des situations qui sont parfois très complexes, parce qu'on a un parc d'ouvrages d'art en très, très mauvais état, dont le mauvais état va aller en s'empirant. Et on ne sait pas encore comment remédier à cette situation qui va devenir un gouffre financier.
C'est une question que j'aurais pu poser finalement il y a 100 ans. Va-t-on réussir à partager la route? Est-ce qu'on va y arriver? Alors du coup, je vous pose la question à tous les trois. Et puis quand surtout?
Oui, on va y arriver puisque c'est déjà commencé. Donc en tout cas, pour ce qui est du partage physique de la route, c'est déjà commencé. Et ça va faire hurler un certain nombre de vieux utilisateurs de la route. C'est évident que les choses ont déjà commencé et que ça va croître et embellir.
Et ce sera au détriment de la voiture, hein, pour...
D'une voiture trop rapide, d'une voiture trop puissante, d'une voiture arrogante.
Mmh. Oui, Jacques Lévy.
Oui, partager la route, ça va se faire, mais la route ne sera plus la même à la fin. C'est-à-dire partager la route, c'est changer la route.
Et ce sera la conclusion. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler partage de la route. Deuxième volet donc de cette édition spéciale des Mobility Stories sur la route, proposée par Movinone en partenariat avec l'Express. Sachez que tous les podcasts Mobility Stories sont disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Pour découvrir tous les travaux de Movinone et pourquoi pas rejoindre l'écosystème mondial de la mobilité durable, rendez-vous sur movinoneconnect.com.